Espace 2, Annick Chuin.
Bonjour à vous. Depuis 10 ans, bon anniversaire, l'ADAP, ONG basée à Genève, est engagée dans des projets qui touchent à la fois à la conservation de la nature et au développement, tout en tenant compte de la gestion communautaire et locale des ressources. Un sacré pari. Bienvenue à vous.
Bienvenue dans le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes reçoit Yves Auxerre, professeur à l'école d'ingénieurs de Lullier et fondateur et président de l'ADAP. Yves Auxerre, bonjour.
Bonjour.
La DAP, l'Association pour le développement des aires protégées, recouvre, si j'ai bien compris, à la fois la nature et les hommes.
C'est ce qu'elle espère, ou ce qu'elle essaye de faire en tout cas, c'est effectivement de répondre à la fois à des préoccupations d'environnement d'un côté, mais sans oublier que si on ne se préoccupe pas des hommes, ben, il est très difficile de s'occuper d'environnement. Donc on essaye effectivement de répondre aux deux problématiques.
Vous avez 10 ans cette année, au lancement de cette association, s'occuper à la fois de préserver l'environnement et d'y intégrer les hommes, c'était probablement quelque chose de difficile, non ?
Il y avait un problème d'identité, c'est-à-dire que c'était peu lisible. Les gens de la coopération classique ou traditionnelle nous disaient qu'on ne faisait pas de la coopération. Et ceux de l'environnement ne comprenaient pas vraiment pourquoi on s'occupait également des problématiques de développement. Donc effectivement, au début, on a eu un problème à poser notre identité, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez peu couru, même si depuis là, c'est devenu plus la norme, on va dire.
Oui, c'est encore discuté quand même. Le développement humain et la préservation de la nature, ça reste parfois encore antinomique. Est-ce qu'on va faire, par exemple, chez nous, des remontées mécaniques dans les montagnes ou pas ?
Alors, ça reste assez antinomique. Maintenant, il s'agit probablement plus d'un compromis que d'une victoire sur les deux plans systématiques. Mais effectivement, l'exemple que vous citez sur les remontées mécaniques est assez parlant. Malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est quand même souvent les remontées mécaniques qui gagnent sur les espaces naturels.
On en parlera dans d'autres pays. Bien justement, la DAP agit où ? Dans quel type de pays ?
Alors, en fait, effectivement, on a une identité justement qui est plutôt africaniste. Même si on n'exclut pas d'intervenir ailleurs, on est en train d'envisager éventuellement d'intervenir en Amérique latine. Mais pour le moment, nous sommes intervenus en République centrafricaine, en Tanzanie, au Mozambique et au Burkina Faso.
Pourquoi ce choix ?
Bonne question. Premièrement, parce que notamment la République centrafricaine, parce qu'on pensait que c'était un pays qui en avait beaucoup besoin. Malheureusement, comme on en parlera probablement, on n'avait pas nécessairement les épaules pour travailler là-bas. Et puis les autres pays, il y avait deux conditions qui étaient identifiées. C'était des besoins en termes de protection de l'environnement, mais également des besoins forts en termes de développement.
Comment est née la DAP ? D'un seul homme, d'un groupe d'amis ?
Plutôt un groupe de copains, même si effectivement j'ai probablement beaucoup poussé la chose. Mais en fait, depuis le début, on a commencé à 3. Et puis depuis là, la DAP a grandi, a grossi. Et on a aujourd'hui à peu près une centaine de membres.
Elle a ses lettres de noblesse, elle a ses reconnaissances aussi. Vous spécifiez partout sur vos newsletters, notamment que la DAP est membre de la Fédération Genevoise de Coopération. Ça, c'était un grand pas en avant ?
C'était fondamental. L'intégration à la Fédération Genevoise de Coopération nous a permis d'une part d'intégrer un réseau dynamique dans lequel il y a beaucoup d'échanges constructifs par rapport à ces problématiques. Et d'autre part, il faut le reconnaître très honnêtement, c'était très important également d'accéder à des financements institutionnels et donc d'être un peu moins en permanence avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais de pouvoir un petit peu plus respirer et planifier en fait.
Il faut être estampillé.
Oui, il faut justement, une des conditions de rentrer à la FGC, c'est un certain nombre d'années d'existence et de survie, on va dire.
4 ans, je crois, d'ailleurs.
4 ans, ouais. Et effectivement, je pense qu'une fois qu'on accède à cette institution, hein, il y a une certaine reconnaissance du fait que, d'une part, ce qu'on fait est d'une certaine qualité et que, d'autre part, il y a un certain professionnalisme qui a été atteint.
Mais c'est intéressant, cette durée demandée, parce qu'on sait que les associations en tout genre, d'ailleurs, sont très nombreuses à naître chaque année et à mourir chaque année et à s'auto auto-alimenté d'ailleurs.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, très souvent, si on suit les trajectoires de personnes, on se rend compte qu'en fait, y a des personnes qui, dans leur vie, ont créé 4, 5 associations, mais qui effectivement n'auront pas survécu très longtemps. Le fait est qu'il y a une compétition assez intense dans ce domaine, et puis qu'effectivement, y a des domaines aussi qui sont plus porteurs que d'autres. Typiquement, il est plus facile de faire une association pour les enfants de la rue que de faire une association dans laquelle on fait des choses un peu compliquées, où on dit qu'on va à la fois s'occuper d'environnement, à la fois s'occuper de développement.
Et en Afrique.
Donc en termes de lisibilité, comme c'est plus complexe, on a peut-être moins de facilité à toucher les gens. Et surtout, c'est peut-être pas manichéen non plus. Souvent, dans la promotion pour la recherche de financement, les choses manichéennes marchent bien. Alors que nous, finalement, on parle de compromis, donc on n'est pas dans une vision uniquement catastrophiste ou uniquement négative. Au contraire, on essaye d'appréhender un peu cette complexité pour faire quelque chose avec.
En fait. Et il y a 10 ans, il y avait déjà beaucoup d'associations, je répète, en tout genre. Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ailleurs. Pourquoi créer encore une association?
Alors, c'est une bonne question, parce que les débuts de l'ADAP ont été très difficiles, notamment sur le plan de vue financier. D'ailleurs, on m'avait dit que ça serait difficile, et ça l'a été. Maintenant, il est vrai que la création de l'ADAP, elle est aussi issue du constat qui a été fait sur le terrain, qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec les manières de faire des autres organisations, qui, malgré des discours affichés dans lesquels on ménageait justement et l'environnement et l'humain, bah très souvent, en fait, on s'occupait surtout d'environnement, et l'humain était plus finalement un faire-valoir ou un prétexte que réellement un investissement.
Comment expliquer qu'on fasse passer l'environnement avant l'humain? Ça rapporte plus, l'environnement?
L'environnement, notamment comme le font certaines organisations anglo-saxonnes, où on se sert par exemple d'images de grands primates massacrés sanguinolents ou d'éléphants massacrés, arrive à collecter des fonds de manière très importante parce qu'ils touchent très fortement la fibre émotionnelle. Nous, avec un discours qui est justement un peu moins caricatural, même si on reconnaît dans certains cas l'urgence d'intervenir pour sauver des écosystèmes ou des espèces, ne se fonde pas uniquement sur ce fonds de commerce sanguinolent, et surtout est probablement plus pragmatique, c'est-à-dire que le fait que nous intégrons la dimension humaine fait qu'on peut comprendre par exemple certaines formes de chasse, notamment pour l'alimentation des peuples indigènes, ce qui pour certaines autres organisations de conservation est totalement inadmissible et inacceptable.
Ça veut dire que ces aires protégées, vous partez du principe qu'elles devraient appartenir d'abord aux populations?
Alors en tout cas, on est contre le principe qui a été la norme pendant, je dirais, les 50 dernières années, c'est-à-dire la création d'aires protégées dont on excluait l'homme. Et cette exclusion se faisait très souvent, et se fait encore malheureusement, de manière violente. On utilise l'armée, on utilise la police, on brûle des villages. Enfin, il y a vraiment là, on désapproprie de leur territoire et de leurs ressources des gens. Et là, d'un point de vue à la fois de la légitimité, et je dirais même de la légalité à un certain niveau, ce sont des choses qui sont fortement contestables.
Yves Auxerre, l'Afrique ne vous est pas inconnue. Je vous demandais tout à l'heure pourquoi l'Afrique. Peut-être parce que vous êtes tombé dedans tout petit.
Alors, pire que ça, puisque je suis né, oui, effectivement. C'est clair que ça a joué un rôle, mais je crois que la dimension compétence des différents membres, notamment des membres du début, a beaucoup aussi expliqué cette orientation. Nos compétences étaient orientées plutôt sur le continent africain. Et il y avait plusieurs Africains, il y a toujours d'ailleurs plusieurs Africains, qui participent activement à l'ADAP.
Quand vous étiez en Afrique, vous avez appris évidemment à connaître les Africains. Ça vous a aussi peut-être aider à sortir de cette vision, on disait catastrophiste, un peu l'Afrique paresseuse, l'Afrique incompétente, à sortir de cette vision-là.
Alors c'est clair qu'en y ayant grandi, et puis bon, j'ai peut-être eu la chance aussi d'avoir une éducation qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce qu'il y avait autour de moi. La prise de conscience de mon état de privilégié s'est faite assez tôt, je dirais, et j'ai aussi constaté assez vite que justement des discours manichéens du style il faut qu'ils arrêtent de chasser, tant qu'on ne promeut pas d'alternative, c'est bien joli, mais ça ne peut pas marcher.
Il faut manger d'abord,
ouais. C'est vraiment la priorité, et dans de très nombreux pays d'Afrique subsaharienne, ça reste aujourd'hui la grande priorité.
Vos parents vous ont ouvert les yeux, que faisaient-ils en Afrique ?
Alors, ma mère était sage-femme, donc ils sont partis les deux comme volontaires à la fin des années 60, et mon père était ingénieur agronome tropical.
Vous êtes né où ?
Alors, je suis né au Nord Cameroun, à la porte d'un des plus grands parcs nationaux du Cameroun, le parc de Waza. Et c'est probablement aussi le fait que j'ai grandi pendant mes 10 premières années dans des espaces où il y avait de la grande faune qui m'ont également sensibilisé en fait à ce côté-là.
Mais le parc national, là, ressemblait à quoi ? Il y a des barbelés autour et on laisse passer les touristes ou...
Pas du tout, heureusement d'ailleurs. Non, heureusement, il n'y a pas encore beaucoup de parcs clôturés en Afrique, même si la tendance se développe notamment en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Mais Mais dans le cas des parcs d'Afrique francophone, on est encore dans des systèmes ouverts où on a vraiment des écosystèmes qui fonctionnent. Mais donc, on a effectivement aussi une intervention de l'homme dedans, évidemment.
Et vous fréquentiez quel type d'animaux ?
Je dirais que quand j'étais petit, j'avais de toute façon une affection forte pour, je dirais, tous les grands mammifères. Mais j'étais spécialement interpellé par le fait que ces primates nous ressemblaient tellement. Donc j'étais assez fasciné par les singes, notamment.
Et vous les voyez de près là-bas ?
Ah oui, évidemment. Oui, tout à fait.
Combien de temps vous êtes resté ? Ou jusqu'à quand plutôt ? Au Cameroun ou en Afrique ?
Alors en Afrique, jusqu'à juste avant mes 18 ans en fait. Hein. Et par contre, on a changé de pays assez régulièrement, je dirais tous les 4-5 ans en moyenne, suivant les contrats de mes parents.
Mais généralement en Afrique ?
Toujours en Afrique.
Toujours en Afrique. On reste un moment avec vous, Yves Auxerre, quand même. Okay. Vous avez 18 ans. Vous revenez où ? En Suisse ?
À Genève.
Pour étudier ?
Pour étudier. Et ça n'a pas été facile.
Pourquoi ?
Parce que malgré tout, l'enfance et la jeunesse de privilégiés que j'avais eu et de facilité, s'est trouvé confronté ici à une société qui est beaucoup plus froide, dans laquelle il était beaucoup plus difficile de s'insérer. Le fait que j'avais pas fait ma scolarité à Genève m'a très vite exclu en fait des groupes qui se sont créés par exemple au niveau de l'université. Et j'ai trouvé très difficile cette intégration sociale à mon arrivée. J'ai passé une première année très pénible.
Et en quelle faculté ?
Alors j'ai commencé par les sciences politiques en fait, donc sciences économique et sociale.
Et vous avez persévéré ?
Non, en fait...
Ça, c'était la première mauvaise année, alors ?
Non, disons non. D'abord, j'ai terminé mon baccalauréat en France. Et ensuite de ça, j'ai commencé les sciences politiques. Et les sciences politiques qui sont extrêmement... qui couvrent un domaine, une palette très large de choses, m'ont permis de raccrocher l'environnement assez vite. Hein. Et en fait, derrière, je suis allé à l'Institut universitaire d'études du développement.
Alors là, ça devait aller mieux, non, quand même ?
Alors là, ça allait nettement mieux. Et effectivement, le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants de pays en voie de développement qui y sont, et que les Suisses qui y sont aussi, une certaine ouverture d'esprit, ça m'a effectivement permis, je dirais, de retrouver de l'énergie, de me remotiver et puis justement d'envisager des choses comme la DAP.
Donc l'environnement et le développement humain, pour vous, ça a été d'emblée et tout jeune déjà l'axe que vous vouliez saisir ?
L'environnement, clairement, la dimension humaine, elle est, pour être très honnête, elle est quand même venue progressivement avec un certain apprentissage. Ce ne sont pas des choses qui se devinent nécessairement. Et là, je dirais que mes études à l'IED ont joué un très grand rôle dans la prise de conscience que c'était fondamental de ne pas oublier les hommes.
Mais vous auriez pu faire agronomie, par exemple.
J'aurais pu...
Ou quelque chose de plus proche de l'environnement.
J'aurais pu, mais j'ai effectivement plus d'affection pour ce qui est sauvage et naturel que pour ce qui est transformé et anthropique.
Aujourd'hui, Yves Auxerre, vous êtes notamment professeur à l'école d'ingénieurs de Lullier, donc juste à côté de Genève. Comment vous êtes arrivé jusque-là ?
Alors, justement, mes études à l'IED et le lancement de la DAP pendant quelques années m'ont permis de me faire un peu une place dans ce monde de l'environnement, notamment au niveau international, de pas mal travailler sur des dimensions de tourisme. Et il y a un poste qui s'est ouvert il y a quelques années à l'école d'ingénieurs, qui était un poste dont la thématique était nature et tourisme. Donc je me suis senti concerné, on va dire, et puis j'ai eu la chance d'être pris lors de ce recrutement et de pouvoir, depuis que j'y suis, développer beaucoup d'activités intéressantes qui lient les activités humaines et les questions environnementales.
Donc quand vous regardez votre parcours, vous y trouvez une certaine cohérence, ça ?
De nombreux zigzags, mais un certain fil rouge.
Et en dehors de l'Afrique, du développement, de la faune, de la flore et de l'homme, vous avez des passions, des intérêts ? Ou vous avez le temps ?
Oui, le temps de moins en moins, il faut le reconnaître. Mais par contre, certains de mes hobbies et de mes passions sont liés en fait à l'environnement. Par exemple, je suis depuis l'âge de 10 ans, je suis passionné par les serpents, qui est un animal assez mal aimé dans notre société, et puis dans beaucoup de sociétés humaines d'ailleurs, et également par des domaines, alors par contre, qui sont beaucoup plus lointains, puis qui sont beaucoup plus proches de l'homme, notamment l'histoire.
Vous avez lu quoi récemment ?
Alors j'ai récemment lu un ouvrage sur l'histoire des croisades, en 3 tomes, qui était fort intéressant, qui permet de lire l'actualité présente avec une grille d'analyse différente en fait.
Yves Auxerre, on retourne en Afrique. D'abord, vous avez toujours fréquenté l'Afrique. Quand vous êtes parti à 18 ans, vous avez été resté en lien avec les pays d'Afrique.
Je suis retourné très très régulièrement.
Dans quel pays ?
Alors les premiers retours, ça a été le Burundi, où on avait terminé, en fait, où on avait vécu 7 années. Et puis ensuite, ça a été la découverte de la République centrafricaine, au milieu des années 90.
L'une de vos success stories, parce qu'on va commencer par ça, après on verra les difficultés, elles existent, c'est, si je crois, le miel en Tanzanie. Racontez-nous l'histoire de ce miel en Tanzanie.
Alors, l'histoire de ce miel en Tanzanie, elle est assez longue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est suisse à pas mal de titres. En fait, nous avons été contactés en 2001 par deux Suisses qui avaient une société d'exportation de miel, donc qui étaient des privés, qui travaillaient dans un coin perdu de Tanzanie et qui avaient vu qu'il y avait un gros potentiel avec le développement apicole, mais qui, eux, en tant qu'entreprise privée, n'avaient pas les ressources pour former les gens et pour encadrer, je dirais, le développement de cette activité apicole sur place. Et
c'était donc une activité traditionnelle, mais qui n'avait pas un grand rendement ni forcément une bonne qualité.
Exactement, c'est une vieille activité traditionnelle des peuples de cette région, les Konongo. Par contre, la qualité du miel qui était produite et les quantités étaient faibles et ne permettaient pas une commercialisation sur des marchés modernes, entre guillemets.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de ce miel?
Alors, ils le consommaient eux-mêmes. Beaucoup de sous-produits du miel sont utilisés dans la pharmacopée traditionnelle, notamment. Ils fabriquent une très bonne bière avec aussi. Et en fait, c'est consommé aussi comme sucre, passablement. Donc, il y a une consommation, un usage du miel, à la fois pour des raisons de santé publique et pour des raisons d'alimentation, qui étaient de toute façon déjà assez importantes.
Ça, c'était en 2001?
Ça, c'était en 2001, oui.
Alors, la DAP est appelée par des privés.
Voilà.
Vous partez, vous,
alors
en Tanzanie,
non? C'est mon ami et collègue Jean-Félix Savary qui a fait la première mission de prospection. Moi, je me suis rendu à la suite de ça également dans le pays et nous avons les deux confirmé qu'il y avait un fort potentiel. Et surtout, ce qui était très très intéressant, c'est qu'en fait, cette zone n'abritait pas que des forêts et des abeilles, mais abritait énormément de grandes faunes encore. Et nous avons vu dans l'apiculture un bon moyen de trouver une alternative au braconnage, notamment, et à la destruction des forêts qui se faisait de manière assez intensive et qui se poursuit quand même aujourd'hui pour la culture du tabac. Donc on a vu une opportunité avec cette activité qui pouvait rester en leurs mains, en leur contrôle, de fournir des alternatives à ces activités destructrices de l'environnement et des alternatives intéressantes puisqu'en fait c'est générateur de revenus de manière assez importante.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, dire aux gens de cesser de chasser, c'est difficile, il faut leur proposer autre chose.
C'est difficile et surtout je trouve que c'est difficilement tenable même de notre point de vue, c'est un peu leur dire faites ce qu'on vous dit et pas ce qu'on a fait chez nous. Mais d'autre part, effectivement, selon moi, ce n'est tout simplement pas possible dans des sociétés où il y a peu de circulation monétaire, où il n'y a pas de réserve accumulée de manière importante. Les gens reposent directement sur l'utilisation des ressources. Et si vous voulez qu'ils arrêtent d'utiliser certaines de ces ressources, il faut effectivement leur offrir une alternative qui, quelque part, rapporte en tout cas autant, si ce n'est plus, que les activités qu'ils pratiquaient illégalement auparavant.
Complexe. Vous disiez tout à l'heure, Yves Auxerre, il y a braconnage et braconnage, chasse et chasse. Il y a le braconnage ou la chasse des populations, puis il y a le braconnage ou la chasse au niveau international, enfin qui là est sérieusement dangereux pour la faune et tout l'environnement d'ailleurs, et les populations.
Alors oui, c'est clair qu'il y a différents... Justement, le terme même braconnage est un terme qui est assez difficile à appliquer puisqu'en fait, je dirais que les chasseurs africains traditionnels ont été très vite transformés en braconniers une fois que la colonie a commencé à instituer les législations inspirées de nos législations modernes. Donc le braconnier africain, le chasseur traditionnel africain est tour à tour chasseur et braconnier, selon quelle espèce il tue, à quel moment de l'année il le tue, selon le sexe de l'espèce qui est visé, selon le site... puisqu'effectivement on a créé justement ces espaces qu'on a appelés aires protégées dans lesquelles maintenant il est interdit, en tout cas dans les parcs nationaux, de chasser. Donc quelque part on a créé une situation très complexe et assez confuse sur ce qu'était le chasseur africain. Et par ailleurs, vous citez en fait le problème des grands marchés internationaux. Il y a deux principaux gros problèmes. Il y en a un, c'est ce qui est connu sous le vocable de problème de la viande de brousse, le bushmeat, où là le problème n'est pas l'autoconsommation mais plutôt la commercialisation de cette viande sur les centres urbains, et ça c'est du commercial, ce n'est pas de l'auto-alimentation de village, et c'est fait souvent, c'est organisé depuis les villes. Donc ça c'est très destructeur en termes de quantité d'animaux, et la rentabilité de cette économie, même si elle est forte, comparée à d'autres formes de valorisation, n'est pas très importante. Et puis enfin on a les grands trafics type ivoire, type peau de félin, etc., qui malgré des systèmes, je dirais, de plus en plus contraignants au niveau des contrôles internationaux, demeurent un vrai souci.
Le chasseur-cueilleur africain de Tanzanie, est-ce qu'il devient volontiers seulement apiculteur ?
Alors, je mettrai la réponse en deux temps. La première chose, c'est qu'il n'en reste plus beaucoup des vrais chasseurs-cueilleurs, des gens qui ne vivent en fait à 100% que de ça. Ils ont en fait des polyactivités pour parvenir à survivre toute l'année, dont la chasse fait partie. Et puis, il y a un phénomène qu'il faut peut-être souligner par rapport à cette région particulière de Tanzanie, c'est que comme l'apiculture était une activité traditionnelle et qu'elle était pratiquée par près de 20% de la population, ça a été vu d'un bon œil de soutenir en fait cette économie naissante et de l'amener à quelque chose de plus solide, on va dire. Donc on n'a pas eu finalement beaucoup de difficultés. On a assez rapidement été faire des contrôles dans les camps d'apiculteurs en forêt pour voir s'ils continuaient à emporter leurs fusils, leurs cartouches et à consommer de la viande de gibier en même temps qu'ils pratiquaient la collecte du miel. Et en fait, deux ans et demi après le projet, ben, tous les contrôles qu'on a faits, on ne trouvait absolument plus rien. Et à tel point qu'un des membres de l'association d'apiculteurs, après une de ses tournées, m'a dit en souriant, mais tu cherchais quelque chose de particulier. J'ai dit oui, je m'attendais à trouver des armes, des cartouches, éventuellement de la viande. Et lui m'a dit, mais nous, les gens d'IBA, donc de Inyonga Beekeepers Association, nous, on ne chasse plus. Nous, on fait que de l'apiculture. Et le fait est que l'apiculture, quand elle passe d'une activité traditionnelle saisonnière à une activité professionnelle, occupe aussi, au niveau économique, occupe, je dirais, un temps plus important dans l'année que ce n'était le cas à l'époque où on faisait que collecter le miel. Donc on est passé d'une apiculture de collecte à une apiculture de production. Et donc ça occupe les gens du point de vue travail sur une beaucoup plus longue période. Donc je dirais que ça a aussi amené un certain nombre de personnes probablement à quitter le braconnage, non pas à cause de notre discours ou à cause de notre
force de persuasion,
voilà, mais plus parce que en fait à la fois ils y trouvaient leur compte d'un point de vue financier et puis que faire de l'apiculture professionnellement, ça implique en fait un investissement pratiquement sur toute l'année.
Des hommes et des femmes ?
Surtout malheureusement des hommes. Alors pourquoi malheureusement ? Ben parce que y aurait des opportunités de création de revenus importants pour les femmes. Mais là, le poids de la tradition est fort. Et malgré le fait qu'on soutient, nous, fortement depuis le début, à la fois les jeunes et les femmes, on a un profil moyen de l'apiculteur qui est plutôt un homme assez âgé et qui est peut-être lié aussi à certains autres éléments du point de vue social, notamment à la connaissance justement de la brousse, de la forêt, de ces milieux qui sont quand même relativement dangereux. Au début, les femmes nous disaient même « c'est dangereux pour nous d'aller en forêt ». Alors on leur a expliqué qu'on pouvait faire l'apiculture à côté des villages, qu'il n'y avait pas besoin d'aller en forêt nécessairement. Malgré tout, on voit qu'il y a des fortes résistances, même si un certain nombre de femmes se sont depuis lancées dans l'apiculture.
Mais vous soutenez toute une chaîne de production, parce qu'il y a la récolte, enfin l'apiculture, et puis après il y a le pot de miel.
Alors je dirais même qu'en fait nous on s'occupe peu de l'aspect commercialisation. Heureusement les marchés là fonctionnent je dirais correctement.
Mais ils sont où d'ailleurs ces marchés ?
Alors les marchés sont à plusieurs niveaux, ça va du niveau local, donc où là la rémunération est peu élevée, et la qualité demandée est peu élevée, et on a un niveau régional et national où déjà les prix sont plus intéressants et les quantités demandées aussi. Et puis alors après on a le marché international avec je dirais une grande distinction entre d'une part le miel de table, qui est bien rémunéré, et d'autre part ce qu'on appelle le miel industriel, qui là, lui, vaut moitié moins que le miel de table.
Donc on revient à la chaîne, excusez-moi, je vous en ai retiré.
Donc nous, ce qui nous intéressait beaucoup et ce dont on était conscient depuis le début, c'est qu'il y avait un très grand effort à porter sur les formations. Puisque si on voulait justement passer d'une apiculture de collecte qui fonctionnait avec des ruches fabriquées en écorce, et le paradoxe c'était que les écorces des arbres qui étaient utilisées, c'était des arbres qui étaient importants pour la production apicole. Donc pour passer de cette apiculture de collecte faite avec des matériaux traditionnels à une apiculture moderne, ça impliquait un très grand effort porté sur la formation. Et je pense que c'est une des activités les plus importantes du projet qu'on mène là-bas. C'est des formations très importantes pour améliorer la qualité du miel, les quantités produites, pour introduire de nouveaux types de techniques justement d'apiculture, de nouveaux types de ruches, pour introduire des vêtements de protection pour la récolte, pour introduire l'usage des ce qu'on appelle des bee smokers, je ne retrouve pas le mot en français maintenant, pour enfumer en fait, ouais, les enfumoirs, pour enfumer les ruches plutôt que l'utilisation du feu elle-même. Donc on a mis vraiment l'accent beaucoup sur ces éléments-là, et on a vu le résultat assez rapidement, dans le sens où et qualité et quantité ont augmenté rapidement, et ils ont trouvé preneur assez vite sur les marchés.
Je disais success story, c'est vraiment ça là ?
Alors il faut quand même aussi être, je dirais, oui, c'est une success story, parce que les objectifs, notamment en termes de développement socio-économique, ont été, je dirais, assez bien atteints. Par contre, je dirais, comme dans toute entreprise humaine, les choses ne sont pas complètement parfaites, et il reste bien entendu pas mal de points d'interrogation, voire de problèmes. Un des principaux points d'interrogation, c'est est-ce que ces approches qui justement soutiennent les humains, est-ce qu'elles permettent vraiment de protéger l'environnement ?
Vous le verrez à long terme aussi?
On le verra à long terme. Alors certains indicateurs sont déjà observables aujourd'hui. On a mis en place aussi des systèmes de suivi écologique pour voir comment l'écosystème réagit à toutes ces interventions. Et je dirais que, par exemple, en matière de faune, on a l'impression que la faune augmente. J'ai bien dit l'impression parce qu'on n'a pas conduit pour le moment de comptage systématique, etc. Par contre, on constate que pour la forêt, on continue à avoir une dégradation importante du couvert forestier qui est pourtant fondamental pour la production apicole, mais qui n'est souvent pas le fait des populations locales, qui est souvent le fait de commerçants de bois et d'industriels du bois qui, eux, viennent de grandes villes de Tanzanie et qui profitent simplement du fait que c'est des zones immenses dans lesquelles il y a très peu de contrôle de l'État. La zone où on travaille, c'est pratiquement 20 000 km², c'est pratiquement la taille de la Suisse. Et vous avez peut-être 4 ou 5 agents de l'État, notamment chargés des questions forestières sur cet espace. Et souvent, ils n'ont même pas de véhicule. Donc, ceux qui viennent avec des gros camions et des tronçonneuses arrivent à continuer à prélever le bois. Et ça, c'est assez inquiétant quand même de voir que cette disparition se poursuit, enfin cette dégradation se poursuit.
Justement, donnez-nous une idée de cette forêt. À quoi ressemble-t-elle? Parce qu'on imagine la brousse, la forêt dense, l'humidité.
Alors non, là, on est dans des milieux de savane arborée. Hein. C'est cet écosystème qu'on appelle le miombo, qui est une forêt composée d'un certain nombre d'essences assez particulières. C'est une forêt qui n'est pas complètement fermée. Justement, je dirais que la fermeture de la canopée varie de 40-50% jusqu'à 60-70%, mais elle n'est pratiquement jamais complètement fermée. Et puis, la hauteur moyenne des arbres n'est finalement pas très très élevée, puisqu'on a des arbres à 15-20 mètres, mais pas beaucoup plus haut.
Yves Auxerre, vous revenez d'ailleurs, enfin, il y a quelques semaines, vous êtes revenu de Tanzanie, vous allez donc régulièrement là-bas?
Oui, je m'y rends régulièrement pour le suivi des projets. Et également pour des activités de recherche en fait, que je conduis avec l'école d'ingénieurs de Lullier.
Quand vous formez des formateurs, donc, ça veut dire que la relève est assurée par des locaux, c'est l'un de vos buts. Les expatriés, ou le terme d'expatrié, ça n'existe pas dans votre vocabulaire.
Alors écoutez, c'est encore le reflet aussi de notre idéalisme naissant.
Naissant, vous avez 10 ans. Là,
oui, tout à fait, mais je dirais que c'est quelque chose qui a été mis dans nos statuts au tout début et qu'on n'a jamais enlevé. Effectivement, on part du principe que dans une logique de renforcement des capacités locales. Il convient pour chaque poste qu'on crée sur place de voir d'abord si on ne trouve pas les compétences au niveau local, ensuite au niveau régional et ensuite au niveau éventuellement continental avant d'aller voir si on va chercher un Européen, effectivement. Et il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de gens extrêmement compétents dans ces pays et qu'il y a de moins en moins besoin d'amener des expatriés pour assurer des choses qui peuvent être faites par des nationaux.
Mais l'ADAP n'est pas prête de fermer ses portes?
Non, je pense pas. Je pense qu'il reste en fait énormément de travail. Je pense aussi que l'ADAP reste une structure de petite taille comparée à beaucoup d'autres organismes de conservation. Et en fait, je dirais même que l'ADAP a atteint un petit peu sa capacité maximum dans un contexte de bénévolat uniquement, de gestion de projet. Nous avons actuellement 3 projets en cours. On ne peut pas, sur la base du bénévolat uniquement, faire beaucoup plus. Donc l'ADAP va probablement continuer de toute façon. Après, reste à savoir de quelle manière elle va se développer, si elle va se maintenir sur une structure de petite taille qui fonctionne avec le bénévolat, ou si au contraire elle va essayer quand même de pérenniser ses acquis en créant quelques postes salariés et en structurant peut-être plus solidement son organisation en Suisse.
Ça s'appelle la vitesse supérieure et le professionnalisme ou la professionnalisation?
Alors c'est quelque chose de souhaitable, nécessaire aussi, je dirais aussi d'un point de vue humain. Il est difficile de travailler très longtemps de manière bénévole, surtout quand les investissements sont importants. Et le fait est que ce système nous oblige tous à avoir des emplois rémunérés et corrects ici. Donc finalement, le temps qu'on a à disposition n'est pas si important que ça. Et malgré tout, il y a probablement un certain épuisement des forces vives qui ne fonctionnent que sur la base du bénévolat avec le temps.
Vous avez 3 projets. Il y en a 2 en tout cas en Tanzanie. Oui. Celui dont vous venez de nous parler, 20 000...
À peu près 20
000 kilomètres carrés, oui, c'est énorme. Et puis un autre qui est un peu plus petit, en tout cas en termes de kilomètres carrés, qui lui se trouve, si j'ai bien compris, entre la Tanzanie et le Mozambique. Il s'agirait là d'un couloir à protéger?
Oui, tout à fait. C'est un corridor écologique qui relie Selous Game Reserve, qui est la plus grande réserve de faune d'Afrique, qui est plus grande que la Suisse, hein, qui fait 58 000 km², à Nyasa Game Reserve au Mozambique, qui est la deuxième plus grande réserve d'Afrique. Donc c'est vraiment deux des plus grands écosystèmes naturels encore intacts et protégés. Et ces deux écosystèmes sont reliés par un corridor dans lequel, finalement, la végétation, le degré de naturalité reste encore assez élevé, même s'il y a des habitants qui vivent dans ce corridor. Et une des idées, justement, c'est d'assurer la protection à long terme de ce corridor, encore une fois, sans exclure les humains, mais en développant justement des activités qui leur permettent de profiter légalement de l'usage de leurs propres ressources, finalement.
Alors, légalement, c'est le grand mot. Comment ça se passe avec les autorités politiques?
Alors, en fait, nos projets sont relativement bien vus et bien perçus. Je pense là que le fait que nous n'avons pas une politique avec des expatriés, que nous ne sommes pas une gigantesque organisation avec des budgets de plusieurs millions par année, la petite taille, finalement, je pense qu'elle est là, elle est plutôt un atout. Par ailleurs, le fait que tous nos représentants sont des cadres nationaux et que finalement c'est eux qui font le travail sur le terrain, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié également. Enfin, on a constaté que plusieurs des responsables des institutions avec lesquelles on travaille apprécient beaucoup le fait qu'on se soucie réellement des résultats de ce qu'on fait et qu'on n'est pas uniquement là pour dépenser nos budgets.
Mais à plus haut niveau, ça se passe de la même manière parce que l'activité, au moment où elle devient rentable, le miel par exemple, devient intéressante pour l'État. Pourquoi ne pas nationaliser par exemple ?
Alors l'État en fait il trouve son compte puisqu'il prélève des taxes de manière assez importante sur le miel, notamment sur le miel de qualité qui est exporté au niveau international. D'autre part, la Tanzanie a une politique de lutte contre la pauvreté qui est extrêmement bien conçue et qui lie justement la nécessité de sauvegarder l'environnement à celle de répondre aux besoins prioritaires des gens. Et donc finalement là notre stratégie elle est assez appréciée. Maintenant ça ne veut pas dire que je dirais comme partout, et pas du tout uniquement comme dans les pays en voie de développement, mais comme partout, qu'il n'y ait pas de problème de corruption, qu'il n'y ait pas de problème de détournement de l'aide et des fruits de l'aide.
Mais vous êtes attentif, très attentif.
Oui, ce qui ne veut pas dire...
On le voit dans votre dernière newsletter d'ailleurs, oui.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes.
Oui, forcément.
Forcément.
Le choix de la Tanzanie, apparemment, c'était un bon choix, vous venez de le dire. Il y a eu des choix plus compliqués. Le premier, vous y avez fait allusion en début d'émission, Centrafrique, pour votre premier projet donc à la naissance de l'ADAP en 1997, puisqu'elle a 10 ans. Ça a été un choix plus contestable ou en tout cas plus compliqué.
Non, le choix en soi, je pense que même encore aujourd'hui, quand on le regarde, il se justifiait totalement. C'est-à-dire qu'on disait, on partait du principe que paradoxalement, l'aide se porte pas nécessairement sur les pays qui en ont le plus besoin, mais sur ceux qui sont le plus stables politiquement. Ça, c'était un des grands principes de base. Et la Centrafrique a une particularité par rapport aux autres pays d'Afrique, c'est que c'est un pays qui est très grand, 660 000 km², et qui a une très faible population humaine, 3 millions d'habitants. Donc on n'a pas ce problème qu'il y a dans beaucoup d'autres pays africains de surpopulation et de destruction des habitats à cause de cette surpopulation. Et donc on a des ressources naturelles qui sont présentes de manière encore très importante. Donc c'est un des pays qui reçoit le moins d'aide en Afrique. Et donc nous, suivant cette logique d'aller là où le besoin était le plus fort...
Donc là, c'est le cœur qui a parlé quand même.
C'est complètement le cœur qui a parlé. Et c'est aussi le sentiment d'un gâchis assez fou dans ce pays. Ce qu'on avait peut-être mal anticipé, c'est que pour travailler là-bas, il faut avoir un certain poids, une certaine puissance. Il faut avoir aussi les moyens financiers qui sont nécessaires.
Là, la petite association dont vous parliez ne suffisait pas.
Non, clairement pas. Et d'autre part, on a peut-être eu aussi les yeux un petit peu plus gros que le ventre du point de vue de la conception du projet.
Une certaine jeunesse aussi.
Également, ça c'est clair, on l'a payé. Dans le sens où les propositions qu'on faisait à l'époque étaient très avant-gardistes. Hein. On travaillait sur un parc de 10 000 km², mais qui n'était absolument pas géré.
Mais il existait en tant
que
tel.
Il existait, il avait été classé un jour, il avait été géré par des projets d'aide extérieure pendant quelques années, puis il avait été, entre guillemets, abandonné. Et le gouvernement centrafricain n'avait pas les moyens de le gérer. Donc en fait, c'était ce qu'on appelle des zones d'accès libre. C'est-à-dire que, aussi bien le braconnage commercial dont on parlait tout à l'heure que le braconnage d'autoconsommation se produisait. Et en fait, le parc a été vidé. Quand on est arrivé, on a constaté qu'il y avait pratiquement 80% de ce qui était 20 ans auparavant qui avait disparu. Et qu'il y avait des zones du parc qui avaient été pratiquement vidées. Et donc, on avait proposé de déclasser une partie de ce parc pour en faire justement des zones d'intérêt cynégétique pour les villages, donc des zones de chasse villageoise. Parce qu'on se disait que peut-être, si on leur redonnait la propriété de ces espaces, le comportement, notamment à l'égard de la ressource, allait changer puisque c'était de nouveau leur ressource. Mais on était là beaucoup trop avant-gardiste, c'est-à-dire que déclasser un parc, c'était quelque chose d'impensable, même si ce parc n'existait pas, n'existait que sur le papier. Et donc en fait,
le premier obstacle, il a été administratif.
Il a été légal et administratif. Et puis alors un autre obstacle, c'était la situation sociopolitique du pays.
Très instable.
Très instable et qui malheureusement s'est poursuivi depuis là. Et j'irais avec un degré d'insécurité qui était très élevé. Le grand braconnage qui était opéré par les voisins tchadiens et soudanais se faisait exclusivement à l'arme de guerre. Et typiquement, nous, on n'était pas là pour, ni pour faire tuer des gens, ni pour nous faire tuer, ni pour faire tuer nos employés. Donc assez rapidement, quand on a réalisé qu'en fait c'était véritablement une guerre, il a été clair aussi qu'on n'allait pas y prendre part.
Vous avez payé ça très cher, vous personnellement et l'association aussi. Bon, elle a survécu, on le voit, vous aussi.
Oui.
Mais cher quand même, cher comment ?
Alors, bon, moi, j'ai payé cher à titre personnel et émotionnel. Enfin, c'était une déception immense de voir que malgré tous les efforts qu'on avait produits, malgré tout l'investissement qui avait été fait, qu'on échouait. Ça a été quelque chose de vraiment extrêmement difficile. Mais à bien des égards, finalement, la Centrafrique, aujourd'hui, je lui suis extrêmement reconnaissante parce qu'en fait, c'est là qu'on...
Vous avez tout appris.
L'apprentissage par erreur, hein, ça marche bien.
À condition de ne pas abandonner, c'est
à
ça.
À condition de ne pas abandonner. Et le fait est que probablement, si notre projet tanzanien dont on vient de parler a relativement bien fonctionné, c'est qu'on a su tirer les leçons de pas mal des erreurs de conception, notamment qu'on avait faites par rapport à la République centrafricaine, et d'autres erreurs qui sont plus d'ordre stratégique ou d'ordre de partenariat. Donc nous avons, je pense, profité en fait de cette expérience plus que perdue avec la Centrafrique.
Vous êtes très discret, vous disiez, vous avez beaucoup perdu émotionnellement, puis vous avez perdu tous vos sous là-dedans, non ?
Aussi, mais ça a peu d'importance. Finalement, je crois que par rapport à... le type de projet où si on essaye de développer une institution comme celle-là, ben, il faut y mettre ses billes, en tout cas pour commencer. Et puis ben, après, c'est un peu le poker, dans le sens où si ça avait très bien marché, puis qu'on avait trouvé de nombreux bailleurs de fonds, etc., ça n'aurait pas été un problème. Mais comme finalement, on n'a pas trouvé cette aide financière, on avait trouvé un financement auprès des Américains, mais à cause des problèmes politiques en Centrafrique juste avant qu'on le reçoive, ils ont gelé la totalité des financements pour ce pays, donc ça avait été aussi un coup dur. Et donc effectivement, il y a eu perte sèche au niveau financier. Maintenant, je dois avouer qu'en tout cas personnellement, c'est pas ça qui m'a posé le plus de problèmes.
C'était l'émotion.
Oui, c'était les gens. Sentiment.
De les abandonner. Oui.
Et puis le sentiment de pas avoir réussi, quoi. Heureusement, depuis là, on a un peu réussi ailleurs.
Oui, votre bilan s'est nettement amélioré, mais la Centrafrique, vous avez laissé tomber là.
Alors nous avons laissé tomber, pour être très honnête, je crois que pas mal de gens gardent encore un capital de sympathie assez fort pour ce pays. On a gardé de nombreux contacts. Les besoins, ils sont toujours aussi forts. La situation, il est malheureusement la même, voire peut-être pire que c'était le cas il y a 10 ans. Et tant que les conditions sociopolitiques seront aussi instables et aussi dangereuses, je ne pense pas qu'on pourra s'y réinstaller.
J'allais dire premier échec. Non, échec.
Mm-hmm.
Et vous vous êtes tourné vers quel pays à ce moment-là ?
La Tanzanie, directement. On a eu cette chance que la sollicitation de ces Suisses...
Ils sont tombés à poil.
Ils sont tombés à peu près au moment où tout était en train de se casser la figure en République centrafricaine.
Ah oui, donc vous êtes resté quand même plusieurs années avant de lâcher.
Oui, tout à fait. Et puis bon, à côté de ça, on nous avait, certaines personnes, certains des mentors de la LAF, je dirais, en tout cas des mentors informels, nous avaient recommandé de ne pas, justement à cause des difficultés que représentait la Centrafrique, de ne pas rester uniquement sur ce projet centrafricain, mais de développer d'autres projets dans d'autres pays, de manière finalement à pas se casser complètement si ce projet centrafricain échouait.
Ça s'appelle ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est valable pour l'association comme pour les pays. Vous parliez tout à l'heure de polyactivité, donc le miel, mais aussi autre chose,
tout
pas seulement la chasse, mais d'autres activités. C'est valable pour l'association comme pour les pays.
Alors je pense que bon, pour les pays, il y a une dimension qui est liée en fait à la situation des pays africains et le fait que pas mal de pays sont instables et dans lesquels il y a des problèmes de sécurité. La question d'avoir des projets dans différents pays, c'est également aussi extrêmement enrichissant en termes de comparaison et d'apprentissage, puisqu'on ne va pas utiliser nécessairement les mêmes méthodes et les mêmes moyens pour arriver à nos fins, suivant que ce soit la Tanzanie, le Burkina Faso ou la République centrafricaine. Et puis d'autre part, effectivement, le principe de développer des polyactivités plutôt qu'une seule activité, là provient simplement du constat qu'en fait, on renforcerait leur dépendance et on les rendrait encore plus fragiles si on ne développait qu'une seule activité et qu'il est très important qu'ils aient des stratégies multiples de manière à ne pas être trop dépendants d'une seule activité économique dont souvent elles dépendent de marchés sur lesquels ils n'ont pas d'influence.
Vous avez choisi d'aller également au Burkina Faso. Qui faites-vous ?
Alors au Burkina, nous y faisons, je dirais en termes d'approche, c'est toujours le même principe, c'est d'essayer de voir de quelle manière on peut essayer de contribuer à protéger l'environnement, mais tout en répondant à ses besoins. Et là, en fait, on travaille sur une zone de chasse villageoise dans l'est du Burkina Faso, où le principe est de gérer justement la faune et de l'exploiter par le biais de la chasse pour générer des revenus pour les communautés, donc l'exploiter de manière durable également, c'est-à-dire de contrôler les prélèvements, de s'assurer que finalement on n'exagère pas justement de ce côté-là. Et d'autre part, toujours ce même principe, de leur fournir des alternatives, puisqu'on leur demande de réfréner leurs prélèvements à eux, de leur offrir des alternatives. Et là, ça s'est beaucoup orienté vers l'agriculture, puisqu'on fait du maraîchage, on fait de l'embouche, on soutient de nombreuses activités parallèles finalement qui permettent de générer des revenus au niveau des communautés avec lesquelles on travaille.
Vous travaillez, donc vous êtes professeur à l'école d'ingénieurs de Lullié, vous arrivez à tisser des liens, à avoir des projets dans lesquels interviennent cette école, lesquels par exemple?
Alors en fait, c'est souvent pas des interventions directes. Je profite du fait d'avoir ces réseaux pour développer des activités particulièrement dans le domaine de la recherche, qui est une des missions des écoles d'ingénieurs, et puis dans le domaine du transfert de compétences et de savoir-faire et d'expérience. Donc typiquement, actuellement, nous menons un projet de recherche qui vise à évaluer le résultat des politiques d'aide dans le domaine de l'environnement sur la base de négociations qui ont été faites avec d'une part la coopération allemande, d'autre part la coopération américaine, l'USAID, et d'autre part l'ADAP. Donc on fait des comparaisons.
Et pas la coopération suisse?
Non, dans le cas particulier, la DDC ne travaille pas dans ces pays-là, dans le domaine environnemental, ou en tout cas pas de la même manière ou d'une approche similaire. Elle collabore avec des institutions comme le WWF, notamment en Afrique australe, dans des projets de ce type-là, mais en tout cas en Tanzanie et au Burkina Faso, elle n'intervient pas directement dans ce qu'on appelle la gestion communautaire des ressources naturelles. Donc effectivement, là, nous avons des liens et des contacts avec eux, mais je dirais pas dans une approche comme celle-ci.
Et les étudiants de l'école d'ingénieurs, ou d'ailleurs, est-ce qu'ils demandent à participer, par exemple pour des stages, à vos
beaucoup,
projets?
Beaucoup. Nous avons, je dirais, c'est même un des... On est un peu victime du succès du programme de stage, dans le sens où on a beaucoup, beaucoup de sollicitations, aussi bien d'étudiants de l'IED que de l'école d'ingénieurs de Lullié, mais également d'autres écoles, de l'école polytechnique de Lausanne, également d'institutions françaises. Donc on a beaucoup de demandes. Et en fait, c'est toujours le même problème. On reste une petite structure et on ne peut pas accueillir beaucoup plus que 3-4 étudiants par année sur nos différents projets.
Le réseau, c'est très important. Tout seul, vous ne pourriez pas grand-chose. Alors comment on établit un réseau et qui est important pour vous?
On va frapper aux portes. On n'attend pas que ça se fasse tout seul. Et on va frapper aux portes de manière, comment je dirais, de manière insistante et têtue. Je pense que j'ai dû être perçu comme assez gonflé, entre guillemets, à mes débuts, puisque finalement, moi, j'étais personne et rien. À la limite, quand j'ai commencé tout ça, j'étais même encore étudiant. Et je me suis permis d'aller frapper à des portes où les gens qui étaient derrière étaient des gens relativement haut placés.
Allez, par exemple.
Bêtement, l'Union européenne et le responsable de la Direction générale de l'environnement de l'Union européenne.
Oui, il faut déjà trouver le bon couloir et la bonne porte, là, oui.
Oui, tout à fait. Mais j'ai été assez insistant. Et puis typiquement, le monsieur m'avait promis de m'accorder 15 minutes et je suis resté 8 heures dans son bureau.
Ouh là là, on a encore une quinzaine de minutes, hein, Yvo.
Tout à fait. Mais c'est effectivement par ce biais-là que j'ai pu établir ce réseau. Et je dirais que ce réseau est fondamental, à la fois aussi pour profiter des expériences des autres. Ce que font les autres institutions est extrêmement intéressant. Et il ne faut surtout pas croire que nous, on détient la vérité.
Vous êtes ouvert au dialogue quand même.
Non seulement ça, mais nous recherchons un enrichissement du point de vue de l'expérience et du point de vue de l'échange de connaissances avec les gens qui ont en tout cas des approches et des principes qui sont relativement similaires aux nôtres.
Où résident vos doutes quand vous discutez entre vous? On voit très bien où ça devrait marcher, qu'est-ce qu'il faut faire. Les points paraissent souvent évidents. Où est-ce que ça devient plus fragile?
Là, c'est peut-être plus difficile d'y répondre. La fragilité, elle est un peu à tous les niveaux. La fragilité, elle est beaucoup à Genève, du fait de la structure bénévole, du fait de l'engagement des gens et du fait que nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons nos hauts et nos bas, et nos bonnes et nos mauvaises périodes. Mais également, en fait, du fait de la situation des pays, du rapport qu'on établit avec les communautés sur place. Et puis, alors, typiquement, de certains éléments de type légaliste, comme toutes les démarches administratives qui sont nécessaires pour faire reconnaître une ONG dans un pays africain. Et ça, typiquement, la Tanzanie a décidé d'annuler tous les enregistrements d'ONG l'année passée et a demandé à toutes les ONG de remettre le travail sur l'ouvrage et de reconstituer des dossiers. Donc c'est des démarches administratives. Donc là, il y a une certaine... Je dirais, on n'est jamais sûr de ce que sera demain, à la fois ici et là-bas. Donc, il y a effectivement une part d'incertitude qui demeure assez forte.
Qui sont les gens qui travaillent avec vous? Il y a donc des membres, une centaine de membres à l'ADAP, donc je rappelle l'Association pour le développement des aires protégées. Il y a des membres actifs comme partout, puis des membres passifs,
tout
j'imagine.
Tout à fait. En fait, le noyau est composé grosso modo d'une vingtaine de personnes. Les très actifs sont une petite dizaine. Et les autres sont plus ce qu'on pourrait appeler des membres passifs ou des membres de soutien, en tout cas. Dans le sens où on demande pas mal la participation de nos membres pour les activités. En Suisse également, nos activités de promotion, de manifestation.
Il faut se faire connaître quand même.
C'est fondamental. Et surtout, il ne faut pas croire que parce qu'on est un petit peu connu, il faut s'arrêter de se faire connaître.
Donc vous participez à Genève et ailleurs, parce que vous dépassez Genève aussi, vous avez des membres qui sont ailleurs, dans
tout
d'autres villes.
On a des membres dans d'autres villes et d'autres régions de Suisse, on a également des membres à l'étranger, donc oui, on rayonne entre guillemets un peu plus que simplement dans la simple ville de Genève.
Une vingtaine de membres actifs, dont pas mal d'étudiants et d'étudiants étrangers ou pas? Ou maintenant ce sont des...
Moins, aujourd'hui je dirais que c'était beaucoup des étudiants à l'époque de la fondation, puisque en fait, j'ai fondé la dernière, quand j'étais en dernière année de mes études à l'IED. Mais par contre, la majorité des étudiants ne le sont plus aujourd'hui, ils sont des professionnels.
Et ils sont retournés chez eux?
Alors, pas mal d'entre eux, ouais. Pas mal
et ça reste eux. Là des bons contacts?
Alors, ça reste des contacts exceptionnels. Je dirais pas tous, évidemment, la situation est plurielle. Mais typiquement, le projet que nous avons au Burkina Faso est géré par un Burkinabé qui a été étudiant à l'Institut universitaire d'études et développement également, et qui aujourd'hui est un très bon professionnel.
Est-ce que vous recrutez, profitez du micro?
Alors, recruter à proprement parler, non, puisque nous n'avons pas d'argent pour ça. Mais par contre, nous sommes toujours à la recherche de bonne volonté et de ressources, qu'elles soient humaines, financières, matérielles. C'est clair que justement, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis. Et il faut constamment demander plus de soutien, plus d'aide. Un de nos plus grands besoins actuellement est effectivement, je dirais, du sang frais, du point de vue justement de tous ces membres actifs. Et donc là, effectivement, s'il y a des gens qui se sentent concernés ou intéressés par l'approche qu'on présente, eh bien, ils sont très fortement les bienvenus et on les accueillera avec un grand plaisir.
Voilà, on rappellera en fin d'émission le site sur lequel on peut vous retrouver. Donc, des membres actifs, bénévoles, tous pour l'instant. Il est question de changer un peu la structure de l'ADAP et de devenir une... Vous y pensez sérieusement ou...
Oui, on y pense très sérieusement, ne serait-ce que pour assurer en fait une meilleure continuité et puis un meilleur suivi, un suivi plus régulier, plus rigide de nos projets. Maintenant, c'est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de taille, c'est-à-dire qu'on a réalisé que 3 projets, c'est le maximum de ce qu'on peut faire.
Tanzanie, 2 projets, 1 projet, ou 2 même au Burkina Faso, je ne sais pas comment vous comptez,
alors,
par pays ou par projet.
Au Burkina Faso, on a 1 projet, mais en fait, j'ai également développé un projet avec l'école d'ingénieurs de Lullier,
voilà, donc c'est bon,
mais qui est un projet d'éducation environnementale, là, donc où on fait de la formation de formateurs également.
Mm-hmm. Donc ça, c'est un projet au Burkina, l'autre projet en Tanzanie.
Alors en Tanzanie, donc
on a... Donc les 2 projets dont vous nous avez parlé. Voilà. Ouais. Pour l'instant, ça...
Pour l'instant,
voilà.
C'est...
Voilà. Vous vous arrêtez là pour l'instant. Qui finance? Qui vous aide financièrement?
Alors en fait, notre principal bailleur de fonds est la Fédération Genevoise de Coopération, qui collecte en fait de l'argent auprès de différents niveaux en Suisse, de la Confédération aux communes.
Mais c'est pas mal ça, parce que donc, c'est eux qui se chargent de trouver l'argent.
Alors ils obtiennent des financements. Par contre, il faut quand même soumettre des projets selon un certain format.
Le dossier, c'est vous,
voilà,
oui.
Tout à fait. Mais effectivement, ça nous permet, je dirais, d'assurer la majeure partie de nos financements. Maintenant, nous avons, depuis quelques années, réussi à développer des cofinancements assez intéressants sur le terrain. On a notamment collaboré avec la FAO, avec justement l'USAID, avec la coopération technique allemande, où là, ils cofinancent certains volets, certains aspects, où on partage les frais de certaines activités. Donc ça permet également de ne pas reposer uniquement sur les financements qu'on obtient par la FGC.
Yves Auxerre, faites-nous rêver aussi. Tanzanie, la faune. J'ai lu dans la dernière newsletter, quelqu'un était allé en voyage là-bas et racontait les animaux qu'ils avaient rencontrés. C'est fabuleux.
C'est assez fabuleux. La Tanzanie est de ce côté-là, je dirais, avec les pays d'Afrique australe, un peu une exception dans le sens où... Malheureusement, une grande partie de l'Afrique francophone a perdu beaucoup de sa faune. Il en reste, mais disons dans des densités qui sont basses et qui sont souvent difficiles à observer du fait de la pression de chasse qu'il y a dessus. En Tanzanie, du fait de l'immensité des territoires, du fait qu'il y a une volonté politique forte du gouvernement tanzanien de protéger cette ressource qui lui rapporte beaucoup d'argent, on a effectivement encore des écosystèmes qui sont assez merveilleux, dans lesquels il est possible de voir des troupeaux d'éléphants par centaines, de voir des dizaines de lions, de voir même encore les rhinocéros à l'état naturel, ce qui effectivement devient de plus en plus rare au niveau du continent. Donc de ce côté-là, la Tanzanie reste un pays assez particulier, raison pour laquelle on y a effectivement développé aussi des activités d'écotourisme. En fait.
Ah ben voilà, j'allais vous demander. Et le tourisme, qu'en faites-vous?
Alors le tourisme, c'est un élément assez important également. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Le tourisme ne marche pas partout et en fait a besoin de conditions bien particulières pour fonctionner, notamment d'un certain niveau de capacité d'accueil. Et le savoir-faire en matière de justement d'accueil et de gestion finalement de cette clientèle touristique. Et puis bon, le tourisme de masse typiquement est une chose que nous ne souhaitons pas favoriser. Donc notre principe, c'est pas d'amener le plus de gens là-bas. C'est beaucoup plus en fait de mettre sur pied un produit qui rapporte pas mal d'argent au niveau local, si possible. Et même je dirais c'est une des conditions. Et d'autre part, qui se distingue qualitativement de la majorité des prestations qui sont offertes actuellement. Et donc on offre des voyages dans lesquels il y a un mélange de nature et de culture. On découvre aussi toute la dimension humaine, mais au niveau des ethnies qui vivent dans ces espaces, au niveau de leur fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Les voyages sont des voyages de petits groupes, le maximum c'est 6 personnes, avec un guidage personnalisé. Donc en fait, le client vit une expérience qui n'est pas celle d'aller visiter le Serengeti en minibus à 25 dans le minibus. C'est pas la même chose.
Je vais être un peu désagréable un instant, Yves Auxerre, c'est devenu aussi si un peu tarte à la crème, l'écotourisme. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, je dirais que c'est beaucoup plus que tarte à la crème, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus un argument marketing qu'une réalité. Mmh. Et la majorité,
c'est peut-être là où le bas blesse, en fait.
Tout à fait. Maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre de principes qui existent. Il y a une organisation qui s'appelle la Société internationale d'écotourisme, la The International Ecotourism Society, qui a fixé un certain nombre de principes par rapport à ce que devait être ou ce que pouvait être l'écotourisme. Et un de ces principes, c'est qu'une partie importante des revenus qui sont générés par le voyage de tourisme reste au niveau local. Et c'est là que le bas blesse le plus. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ce sont des organisations occidentales qui gardent, je dirais, la part du lion au nord en matière de revenus financiers. Et il n'y a vraiment que les miettes pour le niveau local.
C'est le poids des agences aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et typiquement, le problème du transport aérien, où là, on ne peut rien faire. Ça reste effectivement aux mains de l'Occident principalement. Par contre, on peut, et notamment en sensibilisant les touristes qu'on amène là-bas à ce qu'on y fait, à la situation et à la vie des gens sur place, on peut essayer de développer des schémas de redistribution qui sont, je dirais, plus honnêtes. Et typiquement, nous, chaque client qui passe à Inyanga laisse, indépendamment des prestations qu'il paye, laisse 400$ pour la communauté villageoise. Et en fait, 400$, c'est beaucoup d'argent pour des zones rurales enclavées de Tanzanie dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de circulation monétaire.
Alors, quelques voyages par année, 6 personnes en voyage, là aussi, vous allez peut-être développer, parce que c'est une bonne source d'argent, ce genre de tourisme.
C'est une bonne source d'argent, puis la manière dont est utilisé les financements qui sont récoltés comme ça, c'est que finalement tout ça est mis dans un fonds commun pour les villages, et les villages décident une fois par année, lors d'une grande assemblée, de l'utilisation de cet argent pour des projets de développement communautaire. Ça peut être de la santé publique, ça peut être de l'éducation, des choses comme ça. Et effectivement, ça serait probablement bien d'arriver à pérenniser, puis à rendre plus régulier peut-être ces revenus financiers. Donc effectivement, nous sommes dans l'idée de passer à un niveau de commercialisation. Pour le moment, on a fait ce qu'on a appelé, nous, des voyages tests, qui ont été très appréciés par les clients. Et maintenant, on aimerait passer au niveau commercial. Mais par contre, on souhaiterait vraiment que même si ça devient commercial, ça ne devienne pas, je dirais, le défilé de touristes là-bas. C'est-à-dire qu'on aimerait trouver un partenaire commercial qui accepte nos, entre guillemets, exigences ou nos requêtes en matière de...
Votre éthique, en fait.
Voilà, à un certain niveau. Et en matière de limitation de la fréquentation, en matière de limitation du nombre de personnes à chaque voyage, en matière d'encadrement et d'éducation aux touristes, finalement.
Yves Auxerre, vous accompagnez ces groupes parfois, vous-même?
Oui, je l'ai fait, oui, tout à fait.
C'est magnifique.
C'est une expérience assez intéressante, on va dire.
C'est quoi intéressant? C'est un peu ambigu, là, comme...
Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, d'une part, on apprend à se connaître dans des voyages comme ça, notamment quand on dort en tente.
À gérer le groupe.
À gérer le groupe. Et puis, d'autre part, on se rend compte aussi, et c'est très, très intéressant, de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles parce que la clientèle ne l'acceptera pas. Et ça, on ne peut le voir qu'en accompagnant les voyages. On voit aussi les travers. Pour être honnête, on les voit assez vite même, notamment en matière, c'est des comportements qui sont souvent pas réfléchis, c'est très rarement orienté négativement, les gens font pas exprès.
C'est l'ignorance, là, d'abord.
C'est plus l'ignorance. Et donc ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Par contre, pour être tout à fait honnête, c'est un métier que je n'aimerais pas faire, et là je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, tout simplement parce que malgré tout, on est dans une logique privée, c'est-à-dire ce sont des clients qui ont payé et qui sont en droit, je le reconnais d'ailleurs, d'attendre certaines choses. Et autant certains clients sont très compréhensifs devant les problèmes qui font souvent partie d'un voyage en Afrique, autant parfois d'autres le sont beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement toujours facile, comme vous le disiez, de gérer les groupes. Donc expérience intéressante, mais dont je ne ferai pas un métier.
Voilà. Donc l'école d'ingénieurs de Lullier va vous garder encore quelques temps comme prof.
Probablement, j'espère aussi.
Yves Auxerre, je vous remercie d'être venu nous parler donc de l'ADAP, l'Association pour le développement des aires protégées. Bon anniversaire que vous allez fêter toute cette année, j'imagine.
Oui, tout à fait. Nous prévoyons deux manifestations pour fêter cet événement dans l'année. Une cet été et l'autre à l'automne.
Ouverte au public ?
Oui, évidemment, ouverte au public.
Et fête, musique, formation, documentaire.
Projection, information, tout à fait. L'idée étant de faire connaître encore un peu plus ce qu'on fait et puis de célébrer ces 10 ans, parce que malgré tout c'est un anniversaire, de célébrer ces 10 ans avec les gens qui apprécient ce qu'on fait.
Je donne l'adresse de l'ADAP, donc comme d'habitude, adap.ch. Vous retrouverez évidemment cette adresse sur notre propre site internet, vous le connaissez, rsr.ch. Yves Auxerre, merci d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli.
Voilà, cet entretien vous était proposé par Annick Chuin avec la collaboration de Bruno Seriba et de Monique Alla. Le meilleur des mondes, eh bien vous le savez, c'est tous les dimanches à 11h sur Espace 2 et à 21h le même jour sur Radio Suisse Romande, la première. À dimanche prochain, l'historien Jacques Gélis nous parlera d'une question grave et passionnante qui touche au statut des enfants morts-nés, et cela en Occident et à travers les siècles. Des mondes, vous avez l'occasion d'entendre des personnalités de tous horizons pendant 50 minutes. Des personnalités que vous pouvez écouter à nouveau sur internet, rsr.ch, grâce au podcast ou encore en commandant un CD au 026 324 24 24.
Il y a les rues, les rivières, les châteaux, les gares, les pâturages, les usines, les frontières. Notre espace est jalonné de lieux les plus divers que nous habitons ou qui nous habitent, que nous traversons ou qui nous traversent. Le samedi de 9h à 10h sur Espace 2, Jean-Marc Falcombello vous emmène à la découverte de ces lieux marquants au fil de sa nouvelle émission 20 000 lieux sur la Terre. Samedi 17 février, première destination, le Val de Travers et ses richesses romantiques.
Espace 2.
La vie,
côté culture.
La vie, côté culture.
Espace 2.
La vie, côté culture.
Bientôt midi. Après les informations, vous serez en compagnie de Daniel Rosis.